pendant très longtemps, j'ai caressé ce rêve de vivre avec un chien. Et ça s'est réalisé un jour, grâce à la médiation de notre fille, qui réclamait sans cesse un chien. C'est mon premier chien, et c'est peut-être le dernier. Parce que Mélodie reste irremplaçable pour moi. Bon, il y a des gens qui se préparent à la disparition de leur chien, et puis dès le lendemain, ils sont prêts à avoir un autre chien. Et je connais des gens qui se sont comportés de cette manière-là, mais ça me surprend un petit peu, et ça fait 3 ans que j'ai perdu Mélodie, et je ne suis toujours pas prêt, je ne me sens pas prêt. Ça viendra peut-être, mais... dans l'immédiat, je ne suis pas prêt à recevoir un autre chien. Cela dit, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je crois que le sentiment le plus fort, c'était en vivant avec cet être totalement étrange, d'une étrangéité. Je reprends le mot que j'ai utilisé dans mon premier livre, pour me définir un petit peu d'une altérité radicale, un être difficile à comprendre, qui est radicalement différent de moi, et en vivant avec cet être vivant, cet animal, je ne sais pas, ça me gêne un petit peu quand je dis un animal, mais je dis c'est un être vivant. Après avoir vécu 12 ans et 3 mois avec cet être, que j'ai essayé de comprendre tout au long de cette vie partagée, à la fin, j'ai eu le sentiment d'avoir appris énormément de choses.
Pour parler des animaux, je me suis intéressée à 2 auteurs de cultures différentes, Akira Mizubayashi, le japonais, et Olivia Rosenthal, la française, ont choisi l'animalité comme sujet principal de leur livre. Tandis qu'il décrit son amour puissant pour sa chienne, elle questionne les intervenants du monde animal. Portrait de 2 auteurs passionnés et passionnants aux approches divergentes. À plume et à poil, lorsque les écrivains parlent des bêtes. Un documentaire de Vinciane Meuchler.
Je n'ai pas écrit ce livre pour les amateurs de chiens. C'est évidemment le fil conducteur de ce livre. C'est la vie et la mort d'un animal, d'une chienne, que j'ai beaucoup aimé, qui a compté énormément dans ma vie. J'ai écrit un livre sur la condition humaine. Mon but ultime, c'était de m'interroger sur moi-même. Qui suis-je ? Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qui est interdit chez l'homme ? Qu'est-ce qui est possible chez Mélodie ? Et ce qui est possible chez Mélodie n'est pas possible chez moi. Ce qui est possible chez moi n'est pas possible chez Mélodie. Donc Mélodie, c'était un être révélateur de moi-même. Je ne voulais pas faire parler Mélodie. Il y a des livres comme ça qui ont été écrits sur les animaux, sur un chien, sur un loup. Et souvent dans ces livres, c'est les animaux qui parlent comme si c'était des êtres humains. Alors là, je voulais absolument éviter ça. Bon, à un moment donné, elle prend la parole, mais c'est dans mon rêve. C'est parce que j'ai entendu cette voix, réellement. Mais mon souci, c'était de la considérer, comment dire, il y a une distance infinie entre elle et moi, infranchissable. Et je voulais garder cette distance que j'ai toujours perçue. Et c'est pour ça, j'essaye de comprendre cet être. Et c'est pour ça que très souvent, je dis dans mon livre, « Excuse-moi, je ne suis pas à ta hauteur. »
Akira Mizubayashi, l'écrivain qui murmure à l'oreille de sa chienne, est un auteur hors norme. Avec Mélodie, chronique d'une passion, édité chez Gallimard, il évoque dans une ode poétique sa relation particulière, symbiose quasi mystique, qu'il relie à sa chienne. Cet intellectuel japonais, francophile et grand spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle, assume aussi bien une réflexion sur l'humanité que sa passion dévorante pour Mélodie, n'hésitant pas à transgresser quelques règles linguistiques.
En japonais, on utilise les mêmes mots. Il n'y a pas de, comment dire, séparation entre les hommes et les animaux du point de vue du vocabulaire. On utilise le mot bouche pour les animaux. C'est le même vocabulaire, d'où la difficulté que j'ai éprouvée. Ça m'a énormément gêné. Je savais que ça ne pouvait pas se dire, comment le mot visage pour Mélodie, mais c'était un vrai visage pour moi. Et puis, mettre bas. Oh. Non, ce n'est vraiment pas joli et ce n'est pas comme ça que j'ai vécu parce que j'ai assisté à tout le processus de ces naissances multiples, tout en étant conscient du fait qu'il y avait des contraintes linguistiques en français. Donc j'ai essayé de préparer le lecteur petit à petit. Voilà, j'utilise des mots interdits en français, mais sciemment, et pour que cette attitude, cette transgression soit acceptée par le lecteur, j'ai fait tout un travail de préparation psychologique pour que ce soit accepté. Je ne sais pas si j'ai réussi. Oui, parce que le japonais vit en moi. Et cette langue autre m'empêchait de partager totalement la perspective française. C'est à ce moment-là que j'étais très précisément entre les deux langues. Oui, il fallait trouver un moment de compromis. C'était ça la difficulté. Chaque fois que j'utilise mon visage en ce qui concerne Mélodie, je le mets en italique. Pour mettre à distance, je l'accepte, je prends à mon compte l'utilisation de ce mot, mais je suis conscient de l'emploi erroné de ce mot. Voilà. Mais le sentiment d'adéquation subjectif l'emportait sur l'usage correct de la langue française. Dans ce livre, je me considère comme son compagnon. D'ailleurs, les extraits de mon journal fictif, je les ai intitulés « Fragments échappés du portefeuille du compagnon d'une chienne », un peu en saluant Diderot qui aimait beaucoup ce type d'écriture fragmentaire. Je suis son ami, son compagnon, je ne suis pas son maître. Le maître, c'était plutôt elle, et moi j'occupais la position d'élève. Parce que, justement, elle ne parlait pas. Tout mon effort a consisté à essayer d'interpréter son regard, ses gestes. Comme si j'étais élève dans le domaine d'un art martial. Dans la tradition japonaise, les grands maîtres ne parlent jamais. Ils se taisent, ils ne parlent pas, et tout l'effort de l'élève consiste à interpréter, c'est-à-dire à transformer ce qui est silencieux en énoncé linguistique. Donc voilà, c'est un processus d'interprétation, interprétation au sens linguistique du terme. Interpréter un geste, interpréter un regard, interpréter, voilà. Tout était une affaire d'interprétation. Elle était devenue plus qu'une compagne, plus qu'une amie, un être pour lequel on se fait du souci jusqu'à en être malade. Une créature pour laquelle l'emploi d'un mot comme « animal » ou « bête » n'était pas convenable, ni tolérable, car trop souvent associé au mépris qu'on exprime à l'égard des personnes humaines dépravées et pernicieuses, infiniment plus nuisibles d'ailleurs que les animaux et les bêtes eux-mêmes, à l'harmonie générale du monde des vivants, humains et non humains. Elle était comme un enfant sorti d'un acte d'amour, des ébats amoureux brûlants, dont nous aurions été les acteurs, ma femme et moi, désirant la venue d'un enfant au monde. Elle était ma vraie fille, une fille incarnée dans une chienne que, dans une histoire fabuleuse d'une civilisation ignorée, j'aurais eu transformé en chien d'un coït pratiqué avec ma femme, également transformé en chienne. Parmi 1 000 milliards de chiens possibles, c'est elle qui m'a été donnée. Cela tient du miracle, aussi miraculeux que la naissance d'un enfant, fruit d'une unique rencontre, d'une seule et longue nuit, d'un homme et d'une femme qui font l'amour.
Akira Mizubayashi, Mélodie, chronique d'une passion.
Il y a une scène assez forte et assez étonnante dont vous parlez, c'est les bains que vous donnez à Mélodie. Alors, une espèce de rituel.
D'abord, dans la tradition, dans la vie japonaise, dans la vie des Japonais, le bain, c'est un rituel très important. C'est un moment de détente, c'est la pratique du bain. C'est quelque chose de profondément japonais, je crois. Et à partir du moment où nous avons décidé de vivre avec Mélodie dans la maison, il n'était pas question de la mettre dehors parce que je ne supportais pas, on ne supportait pas de l'enfermer dans une espèce d'isolement et puis de la faire souffrir de cette façon-là. C'était hors de question. Donc voilà, Mélodie sera avec nous, elle vivra comme nous, dans la maison. Et à ce moment-là, tout de suite, il y a le problème de l'hygiène et puis de l'exigence de propreté, tout ça. Donc voilà, mais nous on prend le bain, mais pourquoi ne pas le prendre avec Mélodie ? Peut-être pas avec le même rythme. C'est devenu une habitude. Et j'ai évoqué cette scène pour deux raisons. La première, c'est que il y a une histoire légendaire hein, au Japon. Le chien dont je parle, qui a été statufié à la gare de Shibuya, Hachiko. Et il y a un film japonais qui a été fait sur ce chien, l'histoire de ce professeur d'agronomie à l'université de Tokyo, la vie qu'il a partagée avec son chien Hachi. Et puis il y a une remake américain qui a été fait. Et dans la version japonaise, il y a une séquence magnifique. Le professeur d'agronomie prend son bain avec Hachi. Et c'est tellement parlant pour les Japonais, et c'est tellement... J'ai vécu de cette façon-là, moi aussi, le bain quotidien avec Mélodie. Je me suis dit, c'est peut-être le moment où je peux marquer mon appartenance à la culture japonaise. Ça, c'est la première raison. Mais j'étais un peu conscient du fait que ça pourrait choquer les lecteurs occidentaux. La deuxième raison, c'est le livre de Jacques Derrida. Dans le livre qui s'intitule « L'animal que donc je suis », je crois, il parle d'une expérience singulière avec son chat. Il parle d'une espèce de... un sentiment de gêne qu'il a éprouvé quand il a été vu tout nu par son chat. Ce sentiment de gêne, cette espèce de pudeur devant un animal qui vous regarde, et je me suis dit, ça mérite d'être creusé, parce que je n'ai jamais eu ce sentiment-là avec Mélodie. J'étais nu, elle aussi, elle était... Je ne sais pas si elle était habillée ou pas, mais elle était en tout cas nue. Le problème, la question de la nudité m'a paru intéressante parce que l'homme porte des vêtements sociaux. Fatalement. Quand je suis avec elle, je suis nu ou je porte des vêtements. Ça m'a travaillé, cette idée-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je crois qu'à deux reprises, je parle de cette image de Rousseau que j'aime beaucoup. C'est la statue divine, Glaucus. C'est le dieu de la mer, je crois. C'est une beauté absolue, mais il y a des, comment dire, des dépôts, des algues, des saletés qui se sont posées sur la statue, donc complètement défigurée. C'est une beauté divine, défigurée, donc absolument méconnaissable, à cause de cette espèce d'épaisseur sociale, ou maritime dans, en l'occurrence. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça un peu. Je porte des épaisseurs qui me cachent, mais malgré ces épaisseurs, Mélodie me voit dans ma nudité totale.
Puis vint le moment de la séparation. Un deuil, celui de Mélodie, qui va hanter Akira Mizubayashi jusque dans ses rêves.
Dans ma vie, il y a deux pertes, c'est celle de mon père et celle de Mélodie. Et très curieusement, cet être humain et cet être animal, les deux êtres vivants, dont le statut est très différent, ils ont le même degré de présence dans mes rêves. Ils apparaissaient très fréquemment avant l'écriture de ce livre. Et d'ailleurs, j'étais tellement tourmenté par ces apparitions dans mes rêves. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Mélodie n'a pas trouvé encore un lieu de repos, en quelque sorte. Au fond de cette espèce de tourment, il y a ce rendez-vous manqué. Je n'ai pas pu dire au revoir à mon père, je n'ai pas pu le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi, parce que dans mon précédent livre, mon premier livre qui s'intitule « Une langue venue d'ailleurs », je dis que le français est ma langue paternelle, parce que sans lui, je n'aurais pas appris cette langue de cette façon-là. Je n'ai pas pu lui dire ce que je voulais dire, je n'ai pas pu le remercier. Et puis en même temps, beaucoup plus tard, au moment de la mort de Mélodie, je n'ai pas pu lui dire ce que je voulais dire, je n'ai pas pu la remercier. Alors ça doit être ça, c'est ça qui les fait revenir sans cesse dans mes rêves. Voilà, il faut que je fasse quelque chose, et j'ai écrit ce livre, et très curieusement, ils apparaissent moins souvent. C'est un peu, moi je ne suis pas du tout croyant, mais chaque fois que je viens en France, avec mon épouse, c'est un peu une habitude d'aller se recueillir devant la tombe familiale. Et il y a un travail de nettoyage, il y a un petit jardin qui entoure la pierre tombale. Voilà, on s'accorde une heure chaque fois. Voilà, on fait le ménage et puis on fait un peu de jardinage. Et puis voilà, et à la fin, on pose un bouquet de fleurs et puis on allume de l'encens. C'est un moment de recueillement et un petit moment de prière et un petit moment pour moi de dialogue avec, voilà, je dis mais je vais passer 6 semaines en France et voilà, que tout se passe bien. C'est à ce moment-là que je pense à Mélodie aussi. Ces deux êtres sont, par le statut qu'ils ont eu, sans doute, pour moi, ils sont un peu inséparables, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans le monde réel. Alors, la musique a une place extrêmement importante dans ma vie. Quand on a décidé d'accueillir Mélodie, donc on a eu une petite discussion en famille, il fallait absolument que ce soit quelque chose en rapport avec la musique. Donc Mélodie est facile à prononcer pour tous les Japonais. Par exemple, à un moment donné, on a pensé à une autre possibilité qui est rythme. Mais le son R est absolument difficile, imprononçable pour les Japonais. Donc du moment que Mélodie vit au Japon dans l'espace japonais, il fallait qu'elle porte un nom facile à prononcer par les Japonais. Donc Mélodie, aucun problème. Une harmonie parfaite avec l'idée de musique, et puis la musique qui résonne tout le temps dans notre maison. Et d'ailleurs, quand je crois que j'ai écrit, quand elle est arrivée, c'était le concerto Jeune homme de Mozart qui résonnait dans l'appartement, et ça, c'est vrai. J'ai pu ne pas l'évoquer, mais ça m'a plu. C'est une pure coïncidence. Le concerto s'appelle Jeune homme, c'était le nom de la pianiste, je crois, qui a interprété ce concerto pour la première fois, mais l'idée de jeunesse qui est dans le concerto m'a beaucoup plu, parce que tout de suite après, il y a un chapitre qui est consacré à la jeunesse. La jeunesse de Mélodie, la jeunesse qui est en même temps un moment de souvenir pour moi. Qu'est-ce que la jeunesse, les éclats particuliers de la jeunesse. Quand j'ai vu Mélodie s'amuser follement avec son cousin Octave, je l'ai prénommé Octave, mais en fait, il s'appelle Tiger. Mais il fallait que ce soit un nom d'essence musicale, donc je l'ai changé, voilà, j'ai changé. Ça, c'était vraiment un moment extraordinaire qui m'a fait beaucoup penser. C'est fabuleux, être jeune. La jeunesse, c'est une sorte d'énergie vitale, inépuisable. Et c'est ça qui m'a mis en relation tout de suite avec le Chevalier à la Rose, ces deux jeunes qui se rencontrent pour la première fois et qui tombent immédiatement amoureux l'un de l'autre. Et pour moi, cette musique, c'est la jeunesse. Et un hommage absolument splendide à la jeunesse. Donc je me suis dit, c'est extrêmement risqué. D'un côté, deux chiens, de l'autre, cette musique sublime de Strauss. Mais pour moi, pour être sincère, ces deux moments étaient une fusion totale.
Les animaux, c'est une vieille histoire. Enfin, disons que c'est un thème qui m'intéressait beaucoup depuis très longtemps. D'abord comme lectrice, parce que j'ai été une très fervente lectrice de Kafka quand j'étais jeune. Et puis ça fait très longtemps que je m'étais dit que j'avais envie d'écrire une histoire d'animaux. Et j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses, puisque dans chacune de ces tentatives, en fait, j'essayais en quelque sorte de prendre la place des animaux. Et très vite, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout, que c'était très artificiel. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça conduisait à rien, parce que du coup, évidemment, c'était complètement anthropomorphique comme perspective. Et en fait, donc c'était des impasses. Et un jour, je me suis dit qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était quand même plutôt d'essayer d'être à sa place, enfin en tout cas d'être à sa place d'humain et de voir comment une relation ou non peut s'établir avec des animaux.
Olivia Rosenthal est l'auteur de « Que font les reines après Noël » paru aux éditions Verticales. Pour l'écriture de son livre, elle a mené une enquête longue et scrupuleuse en donnant la parole à des hommes et des femmes travaillant en contact des animaux, dresseurs de loups, soigneurs de zoos, bouchers ou biologistes. L'originalité de son propos tient dans le paradoxe des relations que nous entretenons avec nos bêtes. Comment l'homme modifie-t-il celles qu'il côtoie, élève, utilise ? Que reste-t-il d'animal dans nos éducations ?
Quand j'étais enfant, je voulais absolument avoir un animal domestique de manière totalement irraisonnée, parce que je ne peux pas expliquer tellement la raison de cette chose. Mais y a une chose qui est sûre, c'est que je ne l'ai pas obtenue. Donc ça, c'est ce que raconte le livre. Et que cette frustration minime, hein, c'est quand même pas... C'est pas un drame absolu, mais enfin, ça a eu des conséquences. Alors, le livre les transforme complètement, évidemment... Enfin, c'est-à-dire que j'utilise, on pourrait dire, cette frustration autobiographique pour construire une fiction autour de ça. Mais oui, j'avais envie de partir de cette bête, si on peut dire, de cette envie que beaucoup d'enfants peuvent avoir d'être en contact avec les animaux direct. Peut-être parce que les animaux les renvoient à eux-mêmes, peut-être parce qu'ils font avec les animaux des expériences... justement sur la vie, sur la vie et la mort, sur la naissance. Enfin, il y a des tas d'expériences qu'on fait quand on est en contact avec les animaux, qu'on fait par exemple beaucoup plus quand on est à la campagne que quand on est en ville. Et du coup, on apprend des tas de choses par le biais des animaux. Et moi, je crois que j'avais envie d'apprendre des tas de choses sur la vie. Et j'étais un peu en manque, je crois, d'apprentissage. C'est aussi ce que raconte le livre. Et donc, les animaux, ça aurait été un bon moyen pour découvrir le monde. Donc l'observation des animaux, ça fait partie de ces moments où on fait rien. Alors on fait pas rien puisqu'on observe les animaux, mais donc il y a ça, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec le temps, le fait qu'on s'octroie cette possibilité de ne rien faire ou d'être dans la stricte observation, et aussi d'être dans cette relation de présence ou de coprésence, je sais pas comment on peut dire, qui est toujours une chose quand même très... Enfin, ça, c'est Jean-Christophe Bailly qui en parle très bien dans ses livres, mais le fait qu'on partage le monde avec les animaux, finalement, on n'y pense pas tellement. C'est grâce à Jean-Christophe Bailly que je me suis mise à y penser vraiment. Et c'est pas rien, parce qu'ils font des tas de choses autour de nous, et finalement, on peut tout à fait les ignorer. Et puis, si on commence à les regarder, on voit... oui, je dis des stratégies, c'est-à-dire que... les animaux font des tas de... Ils ont des... Enfin, je sais que c'est un petit peu... On a l'impression qu'ils ont des sortes de volontés, enfin des... Voilà. Et si on les observe avec attention, on constate que, bah voilà, par exemple, il y en a un qui veut absolument, je sais pas, ramasser une brindille. Alors, quelles sont les méthodes qu'il va employer pour le faire, sachant que, voilà, il peut être menacé par d'autres bêtes. Enfin, c'est-à-dire que ça nous permet de repenser, je dirais, à la fois l'espace et le temps. Parce que j'ai eu une commande qui, a priori, n'avait rien à voir avec le livre « Les reines », qui était qu'un artiste qui s'appelle Stéphane Tidet m'a demandé d'écrire un texte sur une œuvre qu'il était en train de créer. Et l'œuvre qu'il était en train de créer, c'était une installation qui allait être présentée à Nantes, dans le cadre du festival d'art qui s'appelle « Estuaire ». Et dans cette œuvre, en fait, consistait à amener une meute de loups dans la ville de Nantes. En fait, c'était ça l'œuvre, qui posait des tas de problèmes, en particulier des problèmes, disons, éthiques, logistiques, enfin bon. Et donc voilà, il avait ce projet qu'il a réalisé, mais pour lequel il y a eu des tas de soucis. Et donc il avait demandé à des écrivains, à 5 écrivains, je crois, de participer en quelque sorte à ce projet. Il a publié un petit livre qui s'appelle La Meute, où il y a ces textes des écrivains. Et donc pour ce projet, je me suis dit que ça serait intéressant d'écrire un texte, non pas sur les animaux, là encore, mais plutôt sur les règles administratives, sur tout ce qui concerne la logistique. Comment on fait venir des loups, quel type de transport on emploie, comment ils mangent, enfin, etc. Donc je me suis plongée dans des tas de réglementations diverses et variées sur les animaux sauvages, etc. Et surtout, j'ai rencontré un dresseur de loups, que j'ai interviewé et qui habitait à La Ciotat ou à côté de La Ciotat. Et en fait, ça a été le déclencheur du livre « Que font les reines après Noël ?» parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose, en fait, de très fort qui unissait ce dresseur à ses animaux. Et en même temps, quand on visitait son lieu de dressage, ça ressemblait vraiment à un chenil, c'est-à-dire une sorte de prison aménagée. Et du coup, je trouvais que dans cette ambivalence-là, il y avait quelque chose à aller chercher qui est... c'est ce dont parle le livre au début, c'est-à-dire, voilà, on aime les animaux, et quand on aime les animaux, on fait des métiers qui consistent à les emprisonner, à les dresser, à les... Et je trouvais que c'était un point d'entrée dans l'histoire des animaux et des relations qu'on a avec eux, qui était un point d'entrée assez intéressant. Alors après, moi, je ne suis pas journaliste, donc j'ai procédé de manière complètement, on va dire, hasardeuse. Et je me suis rendu compte d'ailleurs d'un certain nombre de choses assez... c'était assez intéressant, puisque par exemple, donc pour le dresseur, ça s'est fait comme je vous l'ai raconté, mais par exemple, pour le soigneur de zoo, je me suis dit, bon, bah, je vais aller... Comme j'habite à Paris, je me suis dit, le plus simple, c'est d'aller au Jardin des Plantes, puisque le zoo de Vincennes était fermé à l'époque. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un service de communication par lequel il fallait passer, c'est-à-dire une sorte de filtre, et ça signifie aussi qu'il y a tout un discours... qui est, on pourrait dire, préparé sur le zoo, parce que, en fait, dans les zoos, ils savent très bien qu'il va y avoir un certain nombre de détracteurs de ces lieux. Donc je me suis présentée, en fait, pour ce que je suis, quoi, c'est-à-dire un écrivain qui ne fait pas une enquête journalistique. J'ai eu aucune difficulté, en fait, à rencontrer la personne que j'ai rencontrée, qui était, je crois que c'était le chef soigneur du zoo. Donc là, j'ai fait comme ça. Et après, si vous voulez, c'est un petit peu... J'en parle autour de moi et quelqu'un me dit « Ah, bah, je connais quelqu'un qui travaille dans un laboratoire. » Donc je téléphone à cette personne qui me donne un contact. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté dans le travail que je fais en général, puisque c'est vrai que je passe beaucoup par les entretiens pour écrire mes livres, c'est que souvent, les gens sont contents de raconter leur métier parce qu'ils n'ont pas tellement l'occasion, en fait, de faire une sorte de bilan un petit peu sur leur travail, sur ce qui les touche, ce qui les gêne. Enfin, c'est aussi une manière pour eux de se raconter à eux-mêmes leur histoire, et je pense qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Enfin, il faudrait leur demander, hein, mais...
C'est non sans un certain humour que cette enseignante en littérature à Paris 8 s'est amusée à comprendre ce qui différencie l'existence des animaux de celle des humains, dont la vie est régie par son éducation, le droit, la société.
Je me suis amusée aussi à expliquer comment l'éducation était un élevage. Ça a un peu choqué certaines personnes, je dois dire. Certains lecteurs ont été un peu choqués par cette vision de l'éducation, puisque ça la rabaisse un petit peu. C'est-à-dire que finalement, c'est vrai qu'on apprend à bien se tenir, enfin, etc. On apprend des tas de choses qui sont des... On apprend à se contraindre pour pouvoir vivre en société. Voilà, les petits humains qui sont des animaux, on va... on va les faire entrer dans une société humaine, et pour les faire entrer dans une société humaine, on va donc leur imposer un certain nombre de contraintes. Et donc j'imagine que même si je peux pas tellement en parler parce que je ne suis ni un veau ni un, mais enfin j'imagine que dans le monde animal, il y a aussi une forme de... Alors d'une part, il y a l'élevage, au sens où des hommes vont élever des animaux pour les contraindre à telle ou telle chose, voire pour les préparer à être mangés. Mais il y a aussi, entre les animaux, le fait que les animaux, entre eux, ont des interactions et qui permettent à des petits, parfois, d'acquérir un certain nombre de choses. Alors après, je ne vais pas m'entrer dans le débat de ce qui relève de l'inné et ce qui relève de l'apprentissage, parce que là, je ne vais pas être compétente. Mais voilà, je crois que les éthologues se sont aussi rendus compte que chez les animaux, tout n'est pas inné, et qu'il y a des tas de choses qui s'acquièrent, et que ça s'acquiert par des interactions qui sont des interactions à l'intérieur d'une seule espèce, mais même des fois qui sont des interactions inter-espèces. Donc, c'est-à-dire, voilà, le fait que petit à petit, l'animal va apprendre à connaître non pas l'ensemble de son environnement, parce que nous, comme eux, on ne connaît pas notre environnement, en fait, on connaît qu'une petite partie, mais voilà, de connaître une partie de l'environnement qui permet de, par exemple, de se repérer, de se déplacer, de trouver à manger, etc. Et je dis qu'on ne connaît pas l'ensemble de notre environnement, mais ça, c'est intéressant. C'est aussi l'idée que, qu'on soit un homme ou qu'on soit un animal, ce qu'on voit du réel autour de nous, c'est une toute petite chose par rapport à ce que c'est. Évidemment, si, par exemple, on avait à la place des yeux, on avait des microscopes, déjà, on ne verrait pas du tout la même chose. Ça serait un autre monde, vraiment. Et donc, voilà, les animaux, c'est pareil. Chaque animal dans son espèce voit quelque chose que nous, on ne voit pas, et vice-versa. Donc, c'est assez fascinant et un peu effrayant de penser qu'il y a autant de monde, quasiment, qu'il y a au moins d'espèces animales et peut-être même d'animaux. Donc, c'est un petit peu vertigineux comme, comme perspective.
Quand un poussin naît, comme tous les oiseaux nidifuges, il doit apprendre dès les premières heures de la vie à suivre sa mère, sinon il est tué et mangé par des rapaces ou des renards. C'est ce qu'on appelle le comportement de poursuite. En laboratoire, on a travaillé sur l'empreinte, c'est-à-dire sur l'apprentissage très précoce de ce comportement. On a fait éclore des poussins dans des incubateurs, on a dormi sur des lits de camp pour être sûr d'être là à leur naissance, parce qu'il faut commencer le travail avec eux exactement 16 heures après leur éclosion, sinon il est trop tard. On leur apprend à suivre des ballons colorés en mouvement plutôt que leur mère. Et on a montré que les poussins à qui on avait injecté certaines molécules apprennent plus vite que les autres à substituer un ballon à leur génitrice naturelle. Bref, qu'il y a des molécules qui améliorent l'apprentissage. Malgré votre désir de sortir du giron familial, apprendre à suivre des ballons en mouvement au lieu de suivre votre mère ne vous paraît pas constituer un progrès suffisant pour que vous vous prêtiez à ce type d'expérience. Il vous faut trouver un autre moyen pour vous séparer de votre mère. À cette histoire d'empreinte, j'ajouterai l'existence d'une empreinte sexuelle. Le poussin mâle, parvenu à l'âge adulte, recherchera comme partenaire sexuel des objets qui ressemblent à l'objet qu'il a suivi dans le stade précoce de son évolution. Donc, si on s'arrange pour que le poussin suive des ballons au lieu de sa mère, il aura tendance, à l'âge adulte, à chercher à s'accoupler avec un ballon. À partir de là, d'éminents psychanalystes ont pu dire que le même type de comportement était repérable chez les hommes, qui cherchent parfois à s'accoupler, non pas exactement avec leur mère, mais avec une femme qui lui ressemble. L'histoire ne dit rien de la vie sexuelle, à l'âge adulte, des poussins et enfants femelles, qui, pour échapper aux prédateurs qui les menacent, ont sans doute tout autant que les mâles appris à suivre leur mère.
Que font les reines après Noël, Olivia Rosenthal.
Les animaux, c'est le meilleur de se parler à soi-même, à part quand ils sont malades ou qu'ils ont l'air malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, ce qui leur arrive. Généralement, quand on parle à un animal, on dit « Eh bien, mon petit coco, mon vieux », c'est une manière de se parler à soi-même, un peu direct, je crois. Il y a un grand égoïsme, souvent, chez les propriétaires d'animaux. Ils veulent leur donner un rôle, leur donner une fonction. Quand j'écris un livre ou une pièce, le chien prend un air attentif et le chat rôde autour de la machine à écrire. Peut-être qu'ils ont fait une corrélation entre la machine à écrire et leur pâté. Il y a des histoires d'animaux assez comiques. Hein. Une fois un cheval, pas celui-ci mais un autre, qui m'a fait manquer une affaire de cinéma. C'est un moment où les fonds étaient un peu en baisse ici à cause du casino, un ennui quelconque. Un producteur de film est venu ici pour acheter les droits d'un livre à moi qui s'appelait Une merveille au nuage. On a commencé à parler de la distribution, choses et d'autres. Et puis, le cheval est entré, c'est un cheval qui aimait beaucoup voir jouer aux cartes. Quand on jouait aux cartes, il venait derrière, il soufflait. Alors il est entré sur la pointe des pieds, si je peux dire, il avait le moquette par terre. Il s'est mis derrière le producteur, il a fait comme ça, il a soufflé sur son épaule. Le type a fait un bond de 2 mètres en l'air, il a eu très peur, il s'est retourné, il a dit « qu'est-ce que c'est ?» Bêtement, je lui ai dit « c'est un cheval, je ne sais pas quoi dire ». Il m'a l'air furieux, il avait le cœur qui battait, il était tout rouge, et il est parti. Bref, on n'a jamais tourné le merveilleux nuage.
Alors moi, je n'ai pas du tout cette relation, puisque je n'ai pas d'animal domestique régulièrement. De temps en temps, il y a un chat qui vient, mais c'est pas... Et par ailleurs, je souhaiterais pas tellement entrer dans cette relation parce que justement j'ai pas spécialement envie de me retrouver par exemple responsable, puisqu'en fait il s'agit de ça, c'est pas seulement un face-à-face, c'est aussi une responsabilité. J'ai pas spécialement envie d'être responsable de quelqu'un, et en particulier en l'occurrence disons d'un animal. Je trouve ça assez déjà il faut être responsable de soi-même, c'est beaucoup. Alors s'il faut aussi, vous voyez, parce que oui, c'est une relation qui peut être très intense. Alors souvent, on s'en moque comme si c'était gnangnan, mais c'est pas gnangnan, c'est un fait. C'est très puissant, je pense. C'est précisément pour ça que j'en ai pas spécialement envie, quoi. Alors, l'autre souci avec les animaux domestiques, c'est qu'en général, ils vivent assez peu longtemps, quand même. Enfin, ils vivent moins longtemps que nous. Donc, moi, l'idée d'avoir un animal qui va mourir sous mes yeux, j'avoue que je suis pas tellement fan. J'ai pas spécialement envie de faire cette expérience. Alors après, je suis sûre que quand on a un animal, on pense pas d'abord à ça, mais moi, c'est une des choses à laquelle je pense immédiatement. C'est-à-dire, oui, si ça se trouve, il va vivre moins longtemps que moi. Donc j'ai pas envie de me mettre dans cette situation, parce que je suis sûre, bah, si l'auteur vous le dit, je suis sûre que oui, ça produirait des effets dévastateurs, oui, quand on a une relation qui est très forte avec un animal. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dévasté par sa mort. On n'ose pas le dire parce que on trouve que c'est... Parce que dans la société, ça ne se fait pas et que c'est considéré comme un peu bête et un peu stupide d'attacher autant d'importance à un animal. Mais pourquoi, au fond ? Par exemple, le dresseur de loups que j'ai rencontré, il a commencé comme dompteur. Donc il y a aussi une relation au danger, quoi, qui est... Bon, je pense qu'il devait le tenir, enfin le voilà, il y a des gens pour qui expérimenter la vie humaine, c'est aussi la mettre en danger. Donc lui, il s'est retrouvé dans des cages avec des ours et des panthères. Donc c'est comme ça qu'a commencé sa vie avec les animaux. Et par exemple, c'est vrai que j'avais donc interviewé un expérimentateur de laboratoire, un chercheur en fait, qui travaillait avec des souris. Et c'était très intéressant, puisqu'en fait, je crois qu'au fond, il supportait pas tellement de devoir maltraiter des souris à longueur de journée. Et en même temps, il le faisait parce que, voilà, et culturellement, il avait été, voilà, il allait devenir un chercheur en biologie. Et il y a un moment où, en fait, on peut pas faire autrement, quoi. Donc soit on change de voie, mais c'est assez compliqué une fois qu'on est engagé, soit on est obligé d'accepter ou de faire avec un certain nombre d'opérations. Et finalement, dans les métiers qu'on fait, on fait tout le temps des concessions sur certaines choses. Alors là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on fait une concession sur la vie d'un être, d'une créature. Mais au fond, c'est ça, c'est le rapport que chacun entretient dans son métier avec un certain nombre de choses qu'il n'a pas spécialement envie de faire, mais qu'il fait quand même. Et même le soigneur de zoo, quand il décrit la manière dont il doit broyer des rats pour les donner à manger à d'autres animaux, bon, il le fait. Qu'est-ce qu'on est ? Jusqu'où on va ? Au nom de l'amour animal, et jusqu'où on va ? C'est-à-dire jusqu'à quel type de maltraitance on est capable d'aller
Il y a du vrai aussi. Mais enfin, l'importance de mettre l'homme et l'animal en contact, de leur faire sentir qu'ils ne sont pas les seuls, qu'à côté de leur propre forme, avec deux bras, deux jambes et une tête, il y a l'animal, avec ses membres placés d'une façon différente, son instinct différent, son flair beaucoup plus fort que le nôtre, sa façon de se diriger par l'odorat encore plus que par les yeux. Enfin, les immenses variétés, les immenses fantaisies, on peut dire, de la nature. Et c'est excessivement important pour développer notre compréhension de la vie telle qu'elle est, sous toutes ses formes.
La relation qu'on peut avoir avec telle ou telle bête est déterminée aussi par ce qu'on a entendu sur cette bête, par les signes positifs ou négatifs qui sont associés à elle, quoi. Je pense que c'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a des cultures dans lesquelles certains animaux, par exemple, sont des animaux qui sont affectés de signes négatifs. Ça, c'est assez intéressant. Par exemple, des cultures où le chien n'est pas considéré comme un animal valorisé, comme chez nous, ou des cultures où le cochon est vraiment diabolique. Enfin, je me souviens d'un jour d'avoir lu un extrait d'un autre livre qui s'appelait « Les fantaisies spéculatives » de J.H. Le Sémite, où le personnage se met à manger du cochon et se délecte, etc. Enfin, c'est tout une espèce de long chemin sur comment on apprend à manger du cochon. Et je me souviens que j'étais dans une médiathèque où il y avait une femme qui était voilée, qui était là, et en fait elle était complètement impressionnée par le texte, et même un peu, parce que je décrivais le goût de la viande, elle était complètement dégoûtée en fait. Et comme le personnage dans le livre aussi va dans la porcherie avec les cochons, enfin bon, c'est toute une espèce de délire, elle était, mais complètement fascinée par cette chose qu'elle considérait comme extrêmement transgressive. Et donc c'est intéressant parce que là on voit bien que c'est une chose culturelle. C'est peut-être lié aussi au moment où, à deux choses dans notre histoire. C'est d'une part le développement extrême de l'agroalimentaire, c'est-à-dire le fait que maintenant les élevages d'animaux sont des élevages industriels. Ça fait longtemps, mais maintenant il y a une espèce de connaissance de ça qui fait que ça nous pose des tas de questions éthiques. Et c'est pour ça aussi que les philosophes se sont sans doute emparés de la chose. Et puis, c'est pas sans lien avec l'histoire du XXe siècle, c'est-à-dire le fait que tous ces élevages industriels, la manière dont les animaux sont traités, etc., nous renvoient, nous, à l'histoire mondiale, aux camps de concentration. Je crois qu'il y a eu quand même une espèce de collusion, une espèce de lien qui s'est établi et qui est discuté. C'est pas que l'un est égal à l'autre, hein, mais il y a une discussion qui s'est établie là-dessus, qui est assez intéressante sur justement le traitement que l'on inflige aux animaux, les traitements que l'on inflige aux animaux. Alors moi, j'avais pas du tout envie de me lancer dans un traité. Et d'ailleurs, il y a pas, c'est ça l'avantage de la littérature, c'est qu'elle a pas de message à délivrer. Elle donne pas du prêt-à-penser à des lecteurs, mais c'est vrai que je me suis un peu plongée dans ces ouvrages et je trouve que c'est vrai que ça nous pose aussi la question de notre propre humanité, de est-ce qu'il y a une limite, est-ce que vraiment cette limite qu'on a établie en tout cas dans la philosophie occidentale entre les animaux et les hommes, qui est une espèce de frontière absolument étanche, est-ce que vraiment elle est aussi étanche que ça? Et je dirais que à la fois sur le plan de l'anthropologie, mais aussi toute l'éthologie animale montre que finalement les frontières sont peut-être plus vacillantes que ce qu'on croyait, et que du coup ça nous met un petit peu en question nous-mêmes. L'histoire de l'humanité, c'est quand même l'histoire aussi de l'élevage, hein. C'est très important dans l'histoire de l'homme. Après, ce qu'est devenu l'élevage au siècle dernier, en quelque sorte, ça a des conséquences sur notre vie de tous les jours, en réalité. C'est-à-dire, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange. Donc, c'est vrai que je crois que, oui, ça a développé chez un certain nombre d'humains, si on peut dire, un sentiment de culpabilité d'ailleurs il y a des végétariens qui expliquent, hein, que s'ils sont végétariens, c'est précisément en raison des traitements qu'on fait subir aux animaux. Donc il y a quand même des raisons idéologiques au fait de devenir végétarien, pas seulement, hein, mais ça fait partie. Donc personnellement, je suis pas du tout je suis pas végétarienne, mais je suis intéressée en fait par ces débats. Parce que ce qui est intéressant dans ces débats, c'est toujours la même chose pour moi, c'est cette question de la frontière, en fait. Je suis très intéressée, de manière générale, dans mes livres, par la question de la frontière entre des mondes, entre des communautés, entre des lieux. Et là, par exemple, la frontière entre l'homme et l'animal, c'est une frontière. Et qu'est-ce que c'est que cette frontière? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et je trouvais que finalement, interviewer des gens qui travaillent avec des animaux, c'était une manière assez simple, je veux dire assez concrète, de questionner cette frontière qui n'est pas une manière philosophique. Et donc c'était un biais littéraire, en quelque sorte, pour aborder cette question-là.
Pourquoi un animal? Un animal, surtout un chat, je parle du chat, c'est une vérité. Une liberté, bien sûr en partie socialisée, parce que ce sont des animaux domestiques, mais en même temps avec cette, sans aucune des exigences, mais aussi des masques que l'homme revêt en société par nécessité. Donc un animal non dressé, un peu domestique c'est vrai, mais qui comme un chat reste au fond une liberté, c'est la vie dans son authenticité. C'est un peu comme une plante, si vous voulez, même une plante en pot, c'est aussi la vie. Et je crois que c'est un peu pour ça qu'on voit aujourd'hui les gens dans nos sociétés avoir de plus en plus d'animaux et de plus en plus de plantes. La vie vraie, la vie vraie des gens et leur visage vrai devient de si rare et se masque si souvent qu'on a envie de pouvoir avoir un animal.
à plumes et à poils lorsque les écrivains parlent des bêtes. Un documentaire de Vinciane Meuchler. Avec les interventions de Max Gallo, Marguerite Yourcenar, Françoise Sagan. Montage, Michel Bernard. Musique et mixage, Christian Copin. Une production Unité Nomade. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel.